Merci d'écouter RFI. Il est 22h à Paris, minuit et demi à Kaboul.
Clémentine Pavlotsky.
Bonsoir à tous. Bienvenue dans votre journal en français facile, présenté ce soir avec Zéphirin Quadio. Bonsoir Zéphirin.
Bonsoir Clémentine, bonsoir à toutes et à tous.
1 milliard d'euros pour soutenir l'économie afghane, c'est la promesse faite par la Commission européenne au régime taliban. Objectif, éviter l'effondrement de l'Afghanistan.
Le président français souhaite refaire de la France une grande nation d'innovation. Pour cela, 30 milliards d'euros seront débloqués. Emmanuel Macron a dévoilé son plan de relance économique à 6 mois de la présidentielle.
En Birmanie, l'ancien chef de l'État, Win Myint, raconte pour la première fois le coup d'État de février qu'il a renversé. Son procès s'est ouvert aujourd'hui.
Et puis nous irons aux États-Unis où un couple risque la prison à vie. Ils sont accusés d'avoir voulu vendre des informations sensibles sur des sous-marins nucléaires. Mais ils ont en fait été piégés par un agent du FBI.
Le journal en français facile.
Pour la première fois, les talibans afghans se sont entretenus avec une délégation conjointe des États-Unis et de l'Union européenne.
La rencontre a eu lieu ce mardi au Qatar. Parallèlement, la Commission européenne s'est engagée à fournir une aide d'1 milliard d'euros à l'Afghanistan. C'est un engagement pris par les dirigeants du G20. Alors que le pays menace de s'écrouler 2 mois après la reprise du pouvoir par les talibans, l'Afghanistan est en pleine crise humanitaire et sociale. Le milliard d'euros promis devrait donc permettre de soutenir l'économie afghane. Vincent Souriau.
Vaccination, hébergement, protection des civils et des droits de l'homme, il faut aller le plus vite possible pour éviter l'implosion de l'Afghanistan, qui était soutenu à bout de bras par la communauté internationale depuis une 20aine d'années. Or, depuis la prise de pouvoir des talibans, le prix des denrées alimentaires s'est envolé, il n'y a plus d'argent liquide et le système de santé est à bout de souffle, miné par le gel des financements de la Banque mondiale. Le peuple afghan ne doit pas payer le prix des actions des talibans, estime dans son communiqué la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. En marge de cette enveloppe financière, le G20 se penche aussi sur le futur sécuritaire de l'Afghanistan afin, disait il y a quelques jours le Premier ministre italien Mario Draghi, de prendre des mesures pour empêcher que le pays ne redevienne un foyer du terrorisme international. Merci.
Et hier, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a appelé le monde à faire des dons à l'Afghanistan pour justement éviter son effondrement économique. Le diplomate a également critiqué les promesses non tenues des talibans envers les femmes et filles afghanes.
Et puis en France, le président Emmanuel Macron a dévoilé son plan pour relancer l'économie.
Oui, 30 milliards d'euros seront débloqués. Objectif, refaire de la France une grande nation d'innovation et gagner la bataille de l'indépendance d'ici à 2030. Un plan dévoilé à 6 mois de l'élection présidentielle prévue en avril 2022. Côté opposition, les critiques fusent. Côté écologiste, c'est surtout la volonté présidentielle de développer le nucléaire qui pose problème. Écoutez ce qu'en dit le député écologiste Mathieu Orphelin.
Est-ce que la priorité aujourd'hui, c'est vraiment, par exemple, de relancer une nouvelle génération de réacteurs nucléaires qui sont présentés comme plus petits, plus mignons, plus sûrs que ceux d'avant, comme à chaque fois. C'était frappant de voir que pendant que le président de la République parlait de tous ces mirages technologiques, dans le même temps, l'Observatoire de la précarité énergétique nous disait qu'effectivement, le nombre de Français qui ont eu des difficultés à se chauffer a été multiplié par 2. Alors il faudrait mieux passer un peu plus de temps sur la rénovation énergétique et sur des thématiques comme celle-là, plutôt que de tout le temps être dans la fuite en avant. Ça sert à rien de projeter notre pays en 2030, si d'ici là, on n'arrive pas du tout à répondre à l'urgence climatique et aux besoins des Français et des Françaises.
Le député français Mathieu Orphelin au micro d'Aurélien de Vernoy.
Le ministre français de l'Intérieur, Gérald Darmanin, affirme que les prêtres doivent dénoncer les faits de pédocriminalité.
Déclaration faite à l'occasion de sa rencontre avec Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort, le président de la Conférence des évêques de France. Ce dernier avait jugé que le secret de la confession était plus fort que les lois de la République. C'était après la diffusion du rapport Sauvé qui a provoqué une onde de choc dans l'Église. D'après ce document, près de 216 000 mineurs ont été agressés sexuellement, par des religieux depuis 1950. Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort a de son côté reconnu avoir eu une formulation maladroite. Il a demandé pardon aux personnes victimes et à tous ceux qui ont pu être peinés ou choqués. Le président de la Conférence des évêques de France assure de la détermination de tous les évêques à faire de la protection des enfants une priorité absolue, en étroite collaboration, dit-il, avec les autorités françaises.
Le journal en français facile.
Dans l'actualité également, l'ouverture du procès de l'ancien chef de l'État en Birmanie.
Win Myint était visé par de nombreux et visé par de nombreuses procédures judiciaires depuis le putsch de février dernier, putsch au cours duquel il a été chassé du pouvoir. Il comparaît aux côtés de l'ex-dirigeante Aung San Suu Kyi. Ce procès s'est ouvert alors que les militaires ont repris le contrôle du pays. Il mène depuis une répression sanglante et l'ancien président Win Myint a donc raconté pour la première fois les premières heures du coup d'État de février, Cléa Broderst.
Plutôt mourir que d'accepter la proposition des militaires, c'est ainsi que l'ex-chef de l'État birman Win Myint a débuté son témoignage lors de son audience mardi. Il a expliqué que deux hauts gradés ont pénétré dans sa chambre à l'aube du 1er février et lui ont demandé de démissionner pour raison médicale, ce qu'il a catégoriquement refusé selon son avocat, puisqu'il était en bonne santé. Les militaires l'ont averti qu'un tel refus lui causerait beaucoup de tort. Menace qu'a également reçu Aung San Suu Kyi après son arrestation chez elle dans la capitale birmane le jour du coup d'État. Assignés à résidence depuis le 1er février, ils sont tous deux jugés depuis le mois de juin pour une série d'infractions. Ils sont notamment accusés de sédition, corruption et incitation au trouble public. Les deux anciens dirigeants ont plaidé non coupables lundi, ce qui signifie qu'il y aura une nouvelle série d'audiences au cours desquelles la défense aura la possibilité d'interroger des témoins. Après de multiples reports de ces audiences, Aung San Suu Kyi témoignera pour la première fois le 26 octobre. Si elle est reconnue coupable, elle encourt des dizaines d'années de prison.
Le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un accuse les États-Unis et la Corée du Sud de menacer la paix.
Oui, il affirme que le développement du programme d'armement nord-coréen est nécessaire face à la politique hostile des États-Unis et face au renforcement militaire de la Corée du Sud. Autant d'éléments qui déstabilisent la péninsule coréenne, selon Kim Jong-un. Voici ce qu'il a déclaré. Nous n'évoquons de guerre avec personne, mais préférons plutôt éviter une quelconque guerre et accroître donc notre force de dissuasion pour la protection de la souveraineté nationale. À Séoul, en Corée du Sud, un porte-parole du ministère de la Défense a déclaré que les services sud-coréens et américains du renseignement examinaient actuellement l'équipement militaire exposé par la presse officielle nord-coréenne.
Aux États-Unis, justement, c'est ce mardi que doit comparaître pour la première fois un couple d'Américains dans une affaire d'espionnage.
Pendant un an, le couple a cru vendre des informations sur des sous-marins nucléaires à une puissance étrangère. Mais en réalité, c'est à un agent du FBI sous couverture qu'ils ont vendu ces informations. Jonathan et Diana Toby ont donc été inculpés pour violation de la loi sur l'énergie atomique. Christophe Paget.
Des cartes S décryptées dissimulées dans un paquet de chewing-gum ou dans une moitié de sandwich au beurre de cacahuète. C'est par ce biais que Jonathan Toby, un ingénieur employé au programme de propulsion nucléaire de la marine, et sa femme Diana ont cru, selon le ministère de la Justice, vendre des milliers de documents secrets sur les sous-marins nucléaires américains à une puissance étrangère. Sauf que ladite puissance, dont on ne connaît pas le nom, aurait révélé au FBI la proposition du couple dès le début, ou presque. Le New York Times s'étonne quand même que le renseignement américain n'ait reçu le premier paquet, qui contenait déjà des documents sur les sous-marins, qu'en décembre 2020, alors que le pays en question l'avait reçu dès le mois d'avril. En tout cas, c'est le FBI qui répond positivement à la proposition du couple, le piège est tendu. Un couple qui, selon le FBI, se serait laissé convaincre de déposer toutes ces informations dans des lieux publics où ils pouvaient facilement être observés. En échange, ils auraient reçu pour 100 000 dollars de crypto-monnaie. Samedi, une trentaine d'agents les ont arrêtés dans leur quartier de la classe moyenne d'Annapolis, près de Washington. Ils risquent la prison à vie.
Et avant de terminer, Clémentine, un mot du dernier compagnon de la Libération qui est mort en France.
Hubert Germain est décédé à l'âge de 101 ans. L'annonce a été faite par la ministre des Armées, Florence Parly. C'est un moment important de notre histoire, a-t-elle déclaré. Pour rappel, Charles de Gaulle avait créé l'Ordre de la Libération en novembre 1940 pour récompenser les personnes qui se sont signalées dans la libération de la France et de son empire.